Vous écoutez France Inter et vous êtes sur le formidable 5-7 Boulevard.
Au début des années 80, entre les murs épais du pénitencier de Muret, près de Toulouse, chaque matin dès l'aube, un homme bondit de son lit comme si ses draps étaient brûlants, conscient du danger qu'il y aurait à rester couché. Car le risque serait de se laisser happer par le magma des rêves et des souvenirs, par les images du passé. L'enfance en banlieue, les petits boulots de coursier ou d'ouvrier agricole, la faillite du bar de nuit durement acquis et surtout les quatre braquages qui l'ont conduit ici. Avant d'avoir eu le temps de penser, l'homme prend le recueil de poèmes de Mallarmé qui ne quitte pas sa table de nuit et l'ouvre à la page 27 où sont imprimés ces mots « J'attends en m'abîmant que mon ennui s'élève ». Notre homme sait qu'en prison, l'attente et l'ennui sont des poisons mortels. Alors il n'attend pas, il avance. Il lit Kant, Marx, Platon et il rédige des compositions. Un jour, ce braqueur de banque est devenu docteur en philosophie. Ceci est une histoire vraie. C'est l'histoire de Bernard Stiegler. Yeah, salut Mauduit.
Salut Colin.
Comment ça va?
Écoutez, ça va plutôt pas mal, très bien même.
Joie et bonheur de vous retrouver ici auprès de moi. Et pour cette première, mon très cher ami, nous allons accueillir le parrain le plus classe de la Terre, le philosophe Bernard Stiegler.
Oui, nous recevons ce soir Bernard Stiegler, éminent philosophe, professeur à l'université de Compiègne, mais également au Goldsmiths College de l'université de Londres. Et ça pose un homme hein, quand même tout ça.
Oui.
Bernard Stiegler est aussi directeur de l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Pompidou et président d'Ars Industrialis, association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit, une association évidemment hyper dangereuse puisqu'elle a l'arrogance de vouloir penser hors des impératifs économiques et des industries culturelles. D'ailleurs, Philippe, 5 ans après sa fondation et 3 ans après le déclenchement de la crise économique, Ars Industrialis publie un nouveau manifeste sur son site internet.
Dont vous trouverez le lien sur le site internet du 5-7 Boulevard.
Exactement. Alors, évidemment, la course aux fournitures scolaires bat son plein dans ces temples de la consommation que sont les grandes surfaces et chez les papetiers de quartier. Le bras de fer est rude entre les parents acheteurs et les enfants prescripteurs pour le choix du grand cahier à spirale Hello Kitty. Ou pas, et pour dégoter un combat de compétition, qui va gagner ce combat, c'est terrible. Et surtout, qui prendra soin de la jeunesse et des générations? Voilà de quoi va nous parler Bernard Stiegler.
Eh bien soit, apprenons à prendre soin de la jeunesse en compagnie de Bernard Stiegler, que voici.
Donner ce temps à l'enfance pour l'amuser et la faire rire depuis sa minorité même, c'est lui donner accès aux muses, c'est-à-dire à la fantaisie, qui seule peut l'enchanter et fonder sa vie imaginaire, source de l'art, de la science et de toutes les formes de l'esprit. Laisser en revanche les psychotechnologies prendre le contrôle de l'attention infantile, c'est laisser l'industrie culturelle court-circuiter et détruire ces espaces transitionnels et les bases de tout système de soi. Bonjour.
Bernard Stiegler, bonjour et soyez le bienvenu pour cette première émission de la rentrée chez nous.
Bernard Stiegler, vous venez de nous lire un extrait de votre livre « Prendre soin de la jeunesse et des générations », titre magnifique au passage. Alors, il y aurait donc un problème avec la manière dont on s'occupe de la jeunesse aujourd'hui. Expliquez-nous.
Je dirais que d'une certaine manière, on ne s'en occupe plus... Enfin, nous ne nous en occupons plus. L'industrie culturelle et ce que j'appelle le psychopouvoir ou les psychotechnologies, qui sont en fait un dispositif industriel qui vise à capter l'attention des consommateurs en général, mais surtout des jeunes consommateurs. Il faut savoir que je crois que c'est 43% des actes d'achat, selon BVA, qui sont prescrits par les enfants aux parents. L'acte d'achat dans notre société est la chose la plus importante dans une société de consommateurs. Ce qui conditionne la vie de la famille, c'est ce qu'elle achète. Ce n'était pas toujours le cas dans le passé d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui prescrivent cet acte. Cela veut dire qu'il y a un renversement de rapport entre les générations. Et je pense que nous ne nous occupons plus de nos enfants, non pas parce que nous ne voulons pas nous en occuper, mais parce qu'on nous empêche de nous en occuper. N'importe quel parent sait la guerre que c'est d'élever ses enfants aujourd'hui, et c'est une guerre contre quoi ? Contre le marketing. Le marketing veut se substituer aux parents, aux professeurs, à l'État, aux médecins, à tous ceux qui sont en charge d'éduquer les enfants. Car un enfant, un être humain en général, a besoin d'être éduqué. Il n'est pas humain spontanément. Et la formation de cet être, la formation de son attention, c'est la responsabilité de ses éducateurs. Et en premier lieu, de ses parents. Il n'y a pas que les parents qui soient des éducateurs, mais ce sont d'abord les parents. Or, les parents aujourd'hui sont court-circuités et sont privés de la possibilité de plus en plus d'exercer ce qu'on appelle leur autorité parentale.
Alors, vous avez évoqué, Bernard Stiegler, le psychopouvoir, qui est un concept que vous avez beaucoup développé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce psychopouvoir, de capter l'attention ?
C'est un pouvoir qui s'est formé au XXe siècle. J'ai moi-même formé cette expression pour répondre au biopouvoir, au concept de Michel Foucault de biopouvoir. Foucault disait au XIXe siècle, l'État et la bourgeoisie ont pour but essentiel d'exercer leur pouvoir sur la vie, en l'occurrence la vie des producteurs pour les faire produire. Donc on va s'occuper de la démographie, on va s'occuper de la santé de l'appareil de production, c'est-à-dire en l'occurrence des travailleurs essentiellement, et de leur famille. Bon. Je pense qu'au XXe siècle, cette question du biopouvoir est largement résolue, elle n'est pas totalement bien entendu, mais ce qui s'impose au début du XXe siècle, c'est un psychopouvoir sur les âmes et non pas sur les corps. Le biopouvoir s'exerce sur les corps. Le psychopouvoir s'exerce sur les âmes. De quoi s'agit-il ? On sait que le capitalisme est structurellement, endémiquement surproducteur et que le problème du capitalisme, ce sera théorisé par Joseph Schumpeter, l'économiste autrichien qui fera sa théorie de l'évolution économique sur cette base. Le problème du capitalisme, c'est de sans cesse renouveler une offre pour faire tourner l'appareil de production, mais cette offre, un des premiers à le penser, c'est Henry Ford, spontanément, la population n'en veut pas. Et au début du XXe siècle, un individu appelé Edward Bernays, qui est le neveu de Freud en réalité, va mettre au point une théorie psychologique du comportement du consommateur et il va mettre au point des techniques qu'il appellera les relations publiques. C'est en fait le grand-père du marketing. Pour faire en sorte de capter l'attention des consommateurs par des techniques psychologiques, par un psychopouvoir, pour canaliser cette attention et induire mimétiquement, par toutes sortes de techniques de contrôle du désir et des pulsions, finalement un comportement favorable aux investissements, c'est-à-dire à l'acte d'achat. À partir des années 50, ce qui va être visé fondamentalement, ce ne seront plus les adultes, mais la jeunesse. D'abord la jeunesse adolescente. C'est comme ça qu'on va voir apparaître d'ailleurs le rock'n'roll, etc., qui va servir à capter l'attention. C'est comme ça que Europe 1 va se développer avec Salut les copains, qui est une émission d'ailleurs formidable, hein, parce que tout ça produit de très belles choses aussi. Mais progressivement, les tranches d'âge vont être instanciées, visées, ciblées, comme on dit, par le marketing. Et le marketing va progressivement se substituer, finalement, à ceux qui étaient en charge de former ces comportements qui au départ s'appelaient citoyenneté, comportement religieux, éducation à l'école, etc. et qui maintenant deviennent consomption, c'est-à-dire consommation.
Alors justement, dans cette consommation, vous développez un problème lié à la minorité, la disparition de la minorité, l'imposition d'une majorité. C'est extrêmement complexe. Cette notion qui pourtant était très simple à la base, on est majeur à 18 ans, et puis voilà, on ne cherchait pas, ou 21 ans un peu plus tôt. Aujourd'hui, vous dites que c'est beaucoup plus complexe.
C'est détruit. Je suis, je dois vous dire, absolument scandalisé de ce qui se passe en France en ce moment vis-à-vis de la jeunesse. J'ai écrit ce livre, Prendre soin, d'abord en raison de ce que Madame Dati, alors garde des Sceaux, a voulu imposer, à savoir la suspension de ce qu'on appelle en justice l'excuse de minorité. Vous savez qu'il y a des tribunaux pour mineurs. Et que l'on considère qu'un mineur n'est pas encore adulte et donc qu'il n'est pas totalement responsable de ses actes. Que ceux qui sont responsables de ses actes, ce sont d'abord les adultes et en premier lieu la collectivité dans laquelle il vit. On a voulu mettre, on a mis en cause l'excuse de minorité pour certains crimes et pour certains tribunaux en disant que on ne ferait plus jouer le caractère exceptionnel de l'excuse de minorité pour les mineurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on se défausse de sa responsabilité sur le mineur, dont on considère qu'en fait, tout aussi mineur qu'il puisse être, il est pleinement responsable. Ce qui est une hérésie absolue. Qu'est-ce que la majorité ? Le grand penseur de la majorité s'appelle Emmanuel Kant. Dans un texte, dans plusieurs textes, mais en particulier dans un petit texte que je recommande aux auditeurs de France Inter de lire, parce qu'il est très court et absolument clair. Et on le trouve chez Mille et Une Nuits pour un euro ou deux. Il s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Kant explique que la majorité est une conquête de la société, et que la majorité, ça se conquiert par l'éducation, qu'on n'est pas majeur spontanément, on ne devient pas majeur à 18 ans ou à 21 ans. On devient majeur à 18 ans ou à 21 ans quand il y a une école qui nous apprend à devenir autonome, parce que la majorité, c'est aussi l'autonomie. Mais ceci n'est pas spontanément acquis. En revanche, ce que dit Kant, c'est qu'il est extrêmement important de faire la différence entre mineur et majeur. Mineur, il dit, il y a des adultes qui sont mineurs. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui encore qui, lorsqu'ils ne disposent pas de tous leurs esprits ou qu'ils deviennent séniles, etc., on leur ôte leur majorité puisqu'ils sont sous tutelle, comme on dit, on les met sous tutelle. Un enfant est sous tutelle. Mais ça veut dire que celui qui l'a sous sa tutelle est en obligation par rapport à lui. Et celui-là, c'est avant tout la puissance publique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? D'abord, on a fait passer une loi qui suspend les allocations familiales pour les parents, les familles dont les enfants s'absentent de l'école. Mais pourquoi les enfants s'absentent-ils de l'école ? Ils s'absentent de l'école parce que l'autorité parentale, l'autorité scolaire sont détruites par le système consumériste. Il n'est plus possible de faire son métier de prof, il n'est plus possible d'assumer son rôle de parent dans la société contemporaine. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'aux États-Unis, une enquête qui a été publiée par la revue Pediatrics, qui est une très grande revue médicale américaine, pas en particulier le professeur Zimmerman et le professeur Christakis, a fait apparaître que, d'abord, 40% des bébés d'un an regardent les médias audiovisuels aux États-Unis. 90% des enfants de 3 ans. Que ces enfants-là font un syndrome d'attention deficit disorder beaucoup plus rapidement que ceux qui ne regardent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne d'ailleurs des adolescents actuellement aux États-Unis, c'est 10h30 par jour de consommation médiatique. Et cela a des effets, on le sait maintenant, ça a été observé avec de l'imagerie médicale, sur la synaptogenèse, c'est-à-dire sur l'évolution du cerveau de l'enfant. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, en 2008, en France, a également alerté les pouvoirs publics en disant « Attention, les adolescents qui sont surexposés on a des statistiques qui font apparaître que ceux qui sont surexposés à la consommation médiatique font moins d'études supérieures. » En Allemagne, l'Institut de criminologie de Hambourg a fait apparaître qu'il y a une corrélation directe entre échec scolaire, délinquance juvénile et nombre de téléviseurs par chambre. Vous savez que plus on est dans une société, une famille populaire, plus il y a de téléviseurs dans les chambres. Chaque enfant a sa télévision. Et ceci a des effets absolument catastrophiques. Ils sont avérés aujourd'hui, médicalement prouvés. Les pouvoirs publics ne font rien. Si, ils font quelque chose. Ils condamnent les parents à les priver d'allocations familiales si leurs enfants font des conneries. Et s'ils font des conneries, c'est parce qu'on les rend pulsionnels, ces enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de la pulsion, où on incite à la consommation par la pulsion.
D'ailleurs, expliquez-nous ça, Bernard Stiegler, parce qu'il y a une chose très importante dans votre livre sur le désir et pulsion. Société pulsionnelle, je vous ai interrompu, excusez-moi, mais la chose est importante entre désir et pulsion. Expliquez-nous ça.
Qu'est-ce que la pulsion, d'abord ? La pulsion, c'est quelque chose qui s'empare de nous, c'est une puissance dynamique, et qui est assez irrésistible. Par exemple, imaginez que nous ayons faim, nous nous retrouvons, parce qu'il y a un tremblement de terre, enfermés tous les trois dans ces studios, comme il y a des Chinois en ce moment, dans une mine enfermée.
C'est au Chili, je crois.
Au Chili. Au bout d'un certain temps, le fait que nous sommes des êtres civilisés, du fait que nous n'avons rien à boire et rien à manger, va faire que nous allons perdre notre civilité et nous allons nous comporter comme sur le radeau de la Méduse. Nous allons nous entremanger. Parce que la pulsion va dominer notre comportement. Un être humain, c'est un être pulsionnel, comme n'importe quel être vivant doté d'un système nerveux. L'agressivité du tigre, le caractère farouche du cerf, ce sont des comportements pulsionnels. C'est-à-dire, ce sont des réactions automatiques de l'organisme. Nous, les êtres humains, nous apprenons à maîtriser nos pulsions. C'est-à-dire que quand on dit à un petit garçon, mets pas ton doigt dans ton nez, dis bonjour à la dame, retiens-toi de faire pipi au lit, etc., etc., nous lui apprenons à ne pas satisfaire sa pulsion. Et cette éducation-là, c'est ce qui consiste à transformer la pulsion en désir. La pulsion, lorsqu'elle est transformée en désir, devient une énergie d'investissement social. Et à ce moment-là, elle produit le rapport aux muses, aux sciences, à l'investissement politique, à l'investissement religieux, à l'investissement amoureux, par exemple. Aimer quelqu'un, c'est pas se sauter dessus pour le consommer pulsionnellement. Ça s'appelle la prostitution. Et c'est une forme de misère, ça s'appelle la misère sexuelle. Aimer quelqu'un, c'est évidemment avoir une relation sexuelle avec elle, mais, ou avec lui, mais sublimer, sous une forme sublime, c'est-à-dire dans un processus d'idéalisation. Toute la civilisation, quelle que soit sa forme, chez les Nambikwara, chez les Esquimaux, chez les Chinois, etc., a toujours consisté, selon des modalités très variables, ce sont les diversités culturelles, à produire de l'énergie libidinale, c'est-à-dire du désir avec de la pulsion. Nous sommes la première société, et malheureusement au niveau planétaire, qui détruit cela, parce que en détruisant le rapport aux parents, on détruit ce qui permet aux parents de transformer cette pulsion en désir. Ce que Freud explique, par exemple, c'est que les enfants entre 0 et 5 ans ont un rapport à leurs parents absolument identificatoire et idéalisateur. Le père et la mère sont des idéaux de vie et on s'y identifie totalement. Et ça, c'est extrêmement important. Eh bien, il y a 20 ans, des entreprises, ou plutôt des laboratoires de marketing aux États-Unis, ont dit, puisque les enfants s'identifient avant 5 ans aux parents, il faut maintenant qu'ils s'identifient aux marques. Et donc, on va désidentifier les parents aux parents, les enfants aux parents. Et ça donne des enfants pulsionnels. Donc, ces enfants se mettent, dans certains cas, à passer à l'acte. Et surtout quand ils sont pauvres, évidemment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va priver d'allocation familiale les parents, et en plus, on va les envoyer en tôle, parce qu'il y a un projet de loi de M. Ciotti, il s'appelle comme ça, Ciotti, Eric Ciotti, veut faire passer une loi pour que les parents soient condamnables pénalement à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende si leurs enfants commettent un délit. Mais c'est absolument honteux. C'est une décharge de responsabilité. Et ce sont ces gens qui sont les responsables du gouvernement, qui sont en responsabilité de ce cas. C'est eux qu'il faut condamner à des amendes et à des peines carcérales. Si on doit condamner quelqu'un, ce ne sont pas les parents. Les parents sont des victimes. Nous sommes dans une société qui fait des victimes des bourreaux, qui fait passer les victimes pour les bourreaux. Ce qui est évidemment très pratique, puisque ça permet de faire du détournement d'attention, que ce soit sur les enfants, sur leurs parents, sur les Roms ou sur les étrangers en général. Nous vivons dans une société anti-jeune et structurellement xénophobe. La xénophobie d'État et l'antijeunisme, aujourd'hui, sont des arguments du populisme dans lequel nous sommes en France.
Alors justement, Bernard Stiegler, vous parlez des Roms, pour certains qui ne vont pas faire leur rentrée. Et là, nous allons vivre une semaine de rentrée des classes, ou au moins de préparation de la rentrée. Alors, dans cette recherche de maîtrise des pulsions, quel rôle donnez-vous à l'école, à l'institution scolaire?
L'école est le dispositif absolument fondamental. Vous savez bien qu'Emmanuel Kant a été un philosophe des Lumières, que Condorcet, qui est évidemment très proche de la pensée de Kant, est un des grands penseurs de l'école, que lorsque Jules Ferry mettra en œuvre le système scolaire à la française, c'est par reprise du programme des Lumières et de Condorcet. Qu'est-ce que c'est que l'école? L'école, c'est ce qui nous apprend que quelque chose de supérieur existe dans le désir, qui s'appelle la raison. Et que la culture est quelque chose qui forme des modèles attentionnels. Par exemple, je parlais tout à l'heure du psychopouvoir et des psychotechnologies comme système de captation de l'attention. L'attention, on la capte, cela dit, dans toutes les sociétés. Un chaman capte l'attention de sa tribu, un curé capte l'attention de ses ouailles, un instituteur capte l'attention de ses enfants. Il faut capter cette attention. Mais pourquoi faire? Il faut la capter, à l'école en particulier, pour l'élever à un niveau de pensée, à un niveau de compréhension, à un niveau d'héritage, c'est-à-dire le rapport à la culture constituée, qui va faire qu'on va, comme le disait Auguste Comte, se retrouver comme un nain sur l'épaule d'un géant, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir sur toutes les générations précédentes, de la culture qui a été accumulée, pour essayer de ne pas tomber dans le pulsionnel et au contraire de transformer le pulsionnel en un investissement social. L'école, c'est quelque chose qui permet, après la formation dans la cellule familiale de l'éducation parentale à l'identification, ce qu'on appelle l'identification primaire, de s'identifier à d'autres formes d'idéalité qui sont plus les parents comme idéal du moi, mais la géométrie, l'histoire de la France d'ailleurs, qui n'est pas forcément l'histoire de Gaulois pure de souche, parce que l'histoire de la France, c'est l'histoire essentiellement de migration, qui ne cesse de venir en France pour renouveler la culture. C'est être conscient de la complexité du socle sur lequel on se trouve assis, et c'est pouvoir enchaîner sur ce processus pour soi-même devenir un être autonome, un être majeur, capable de juger, de critiquer, et de ne pas se laisser mener par le bout du nez. L'école, c'est une machine à lutter contre le populisme.
Eh bien voilà un très beau programme pour cette rentrée, Bernard Stiegler. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir rendu visite pour cette première émission. Nous rappelons que votre livre « Prendre soin de la jeunesse et des générations » est disponible aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, monsieur.
Merci à vous.
Merci d'avoir su capter notre attention, surtout.